verschiedene Kulturen ins Rüebliland. Kompass. Jetzt auf Kanal K.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei Kanal K. In diesem Programm Fans of Africa, eine afrikanische Politik- und Kultursendung. Die Präsidentschaftswahl in Kamerun und in Kongo ist sehr nahe. Wir werden darüber mit unserem Gästen heute diskutieren. Ich bin Sylvain Amos am Mikrofon. Bonsoir Yaoundé, bonsoir Kinshasa, Lomé, Accra, Ouagadougou, Abidjan. Amis fidèles auditeurs, merci d'être au rendez-vous à l'émission Fenêtre sur l'Afrique, un programme panafricain de Radio Canal K en Suisse. Le peuple camerounais et le peuple congolais se rendront aux urnes successivement en octobre et en novembre prochain pour élire leurs nouveaux dirigeants. Dans ces deux pays, l'opposition dénonce déjà des irrégularités. Monsieur Vincent Sosten-Fouda, candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, et Monsieur Kalabela Missombo seront nos invités respectivement depuis le Cameroun et depuis la Belgique. Notre correspondante Fabi Kouassi nous rejoindra plus tard dans cette émission pour un compte rendu du procès de Kwadja Nyasigbé à Lomé au Togo. Kwadja Nyasigbé qui est accusé de coup d'État contre son demi-frère, le président Faure Nyasigbé. Sous l'œil vigilant de Gisela Rosato, Esteban Gagnon et Josué Maoli assurent la programmation musicale. Parfaite collaboration de Prince Freddy et de Robin Koudodi depuis Bonn en Allemagne. Robin, bonsoir.
Bonsoir, cher confrère Amos.
Et bien sûr, nos deux correspondants à Lomé, Fabi Kouassi et Rodi Lockson, nous prêtent toujours leur soutien permanent. Fenêtre sur l'Afrique de ce soir, réalisation, présentation, Sylvain Amos. Et sans plus tarder, je vous propose de suivre tout de suite l'éditorial de ce soir de Romain Koudodi. Les élections en Afrique noire, un non-sens ou un défi? Nous avons besoin d'un peuple convaincu plutôt que d'un peuple vaincu. Thomas Sankara. Les scrutins présidentiels ne manqueront pas sur le continent en cette fin d'année 2011. Mais certains s'annoncent plus périlleux que d'autres. La Guinée a fermé sa parenthèse, mais la RDC parle d'elle avec une inquiétude. De septembre prochain à novembre prochain 2011, 6 élections présidentielles à haut risque sont prévues sur le continent noir. Signe de l'importance des enjeux, partout les dates et les commissions chargées d'organiser ces élections ont été contestées. En Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2010 dernier a été officiellement retenu pour les législatives. Mais quand on se réfère aux événements précédents, élections présidentielles frauduleuses, truqueuses où les âmes ont crépité à la place des unes, comment ne pas être tenté, comme Saint Thomas, d'attendre de voir pour croire à la fiabilité du respect des urnes? Paradoxalement, le Niger est le pays où l'adoption d'un chronogramme est de mise, est très respectée. C'est la Côte d'Ivoire et le Togo, spécialistes en la matière, qui ont mis ce néologisme à la mode. Les gouvernements issus d'un coup d'État sont pourtant le moins légitimes a priori. Preuve que la qualité des dirigeants compte autant que celle des institutions. En Guinée, au Sénégal, au Niger, à Madagascar et en République démocratique du Congo, la réussite des scrutins dépendra de la bonne volonté des candidats à respecter les résultats s'ils sont en leur défaveur. Et avant cela, à faire en sorte que le combat soit loyal. Jusqu'à présent, le cas ne s'est pas souvent présenté. En vérité, quand on jette un regard furtif sur le pré-carré français, les élections en Afrique ne sont que des trompe-œil. même si la France, en complicité avec l'Union européenne, jette des sous dans le bon déroulement de ces scrutins, pour le peu que leur intérêt ne soit pas mis en jeu, ils laissent faire et les dés sont pipés d'avance. Alors, très chers amis auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique, si vous nous posez la question de savoir si les élections ont encore un sens en Afrique, nous vous répondrons par l'affirmatif. C'est un défi que le continent doit relever et se battre pour non seulement le boycott dresse un boulevard aux dictateurs, mais aussi y participer permet de plus de démontrer la mauvaise foi de l'Occident qui a sa mainmise sur le continent, surtout la France paternaliste dans le précaré africain. En conclusion, des élections propres dont le verdict des unes seront respectées par tous constitue un défi pour le continent. Romain Koudjodi.
Les élections arrivent encore. À quoi ben y'a Baba Tchouye? Encore fusillé, waïa ya ya. Nemira babujoa, nemira basiade, o nemira babuya no noade, la coque bana benyamade, o nemira bafouade. Ne vous y trompez pas, les violences proviennent de la farouche volonté de conserver le pouvoir contre la volonté du peuple. Et tant que le pouvoir sera considéré comme un héritage familial ou ethnique basé sur une force militaire, il y aura toujours des violences. J'en appelle à la conscience des dirigeants actuels et à mes frères militaires. Quel Togo voulez-vous laisser à nos enfants? Fire!
Let's
Les violences proviennent de la farouche volonté de conserver le pouvoir contre la volonté du peuple. Message de Amen Jassissé qui s'inquiète dans ce morceau à l'approche des élections en Afrique et comme actuellement au Cameroun et au Congo où ces élections sont souvent émaillées de violences. Vous êtes dans l'émission préférée Fenêtre sur l'Afrique et une émission de débat politique et culturel africaine. Le 9 octobre prochain, le peuple camerounais se rendront aux urnes pour les présidentielles. Le président Paul Biya vient de confirmer sa candidature, bringant ainsi un sixième mandat à la tête du Cameroun, alors que beaucoup d'opposants et d'observateurs jugent son bilan négatif. Le 4 septembre dernier, son dossier de candidature à la présidentielle du 9 octobre a été déposé par une délégation de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. Au total, 51 candidatures ont été enregistrées, un record dans l'histoire des présidentielles au Cameroun. Le président Paul Biya est le deuxième président du pays depuis son indépendance en 1960. Il doit son arrivée au pouvoir au premier président Amadou Ahidjo, qui avait démissionné en 1982. Le régime de Biya à la présidentielle camerounaise devait en principe s'achever en 2011. Il avait été réélu en 1997, puis en 2004 sur la base d'une disposition constitutionnelle limitant le nombre de mandats à deux, chacun ayant une durée de 7 ans. Rappelons ici que l'Assemblée nationale camerounaise est dominée par le parti de Paul Biya. Et pour discuter des enjeux post-électoraux au Cameroun, nous prenons tout de suite en ligne depuis le Cameroun un candidat à l'élection présidentielle. J'espère que nous allons le prendre tout de suite. Bonsoir, monsieur Vincent Sostenfouda.
Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent du côté de la Suisse.
Merci d'être l'invité de Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K et merci également d'être en direct avec nous depuis le Cameroun. Vous êtes candidat aux élections présidentielles du 9 octobre prochain. Vous êtes également sociopolitologue, chercheur à la chaire de recherche au Canada en mondialisation, citoyenneté, démocratie. Alors, Vincent Sostenfouda, le président Paul Biya, après 28 ans de règne sans partage, vient encore une fois de déposer sa candidature. Quelle est votre réaction? Et car certains hommes politiques camerounais pensent que Paul Biya a violé la Constitution.
Disons que la Constitution a été taillée à la taille de la veste du président de la République. Vous savez que la Constitution camerounaise, qui limitait le nombre de mandats à la tête de l'État, a été modifiée en février 2008. Et nous l'avons dénoncé à l'époque. Maintenant, l'Assemblée nationale a modifié la Constitution sur proposition des chargés de mission de la présidence de la République. Aujourd'hui, le vin est tiré. Le président Biya est à nouveau candidat. Il ne me revient pas de commenter cette candidature. Je constate tout simplement que c'est peut-être une candidature de trop.
Oui, et Vincent Sostenfouda, le chef de l'État camerounais, a signé le texte fixant les conditions de participation des Camerounais de la diaspora à l'élection présidentielle. Le courage politique de Paul Biya n'est-il pas salué, hein, car c'est la première fois que les Camerounais résidant à l'étranger vont participer au vote.
Non, ce n'est pas un acte à saluer, parce que vous savez que l'élection présidentielle n'est pas un champ d'expérimentation. L'élection présidentielle est la rencontre d'un homme avec son peuple. Et le peuple camerounais aujourd'hui vit partout dans le monde, mais surtout dans le triangle national. Donc nous nous sommes battus des années durant pour que les Camerounais, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, puissent participer à la vie politique de leur pays. C'est donc tout à fait normal qu'aujourd'hui, les Camerounais que vous appelez ceux de la diaspora soient appelés à participer, à prendre une part active à cette élection présidentielle, notamment donc en déposant leur bulletin de vote dans l'urne. Maintenant, est-ce que les conditions sont véritablement réunies pour que ces Camerounais de l'étranger puissent voter? Ma réponse en tant qu'observateur de la vie politique camerounaise est non. Non pour la simple et unique raison que vous savez par exemple que l'Afrique à elle seule compte déjà 54 États et que le Cameroun a choisi de faire participer seulement 33 pays à cette élection présidentielle. Or, vous savez que les Nations Unies comportent à peu près 154 ou 155 États membres. Ce qui veut dire que les Camerounais qui résident dans un certain nombre de pays ne pourront pas participer à cette élection. Voilà pourquoi nous, à notre temps, nous avons demandé que cette élection présidentielle soit reportée de manière à ce qu'elle soit organisée plus tard dans des conditions idoines. Ce qui n'est pas réuni aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est tout simplement que le régime en place veut faire un passage en force, en violant les lois de notre pays et en excluant une bonne partie des Camerounais de la vie de notre pays.
Oui, et Soussène Fouda, est-ce que vous croyez sincèrement à la transparence de ces élections au Cameroun ?
Non, nous ne pouvons pas croire à la transparence. Seulement, nous pensons que le jeu démocratique doit se faire. Nous devons tenter par notre action à faire progresser la démocratie dans notre pays. C'est pour cela que vous avez rappelé tout à l'heure que je suis chercheur au Canada. J'ai choisi de venir au Cameroun pour aider mon pays à entrer de plein pied dans la démocratie. Ce n'est pas véritablement le cas parce que depuis que je suis au Cameroun, nous avons des barrières à tous les niveaux pour rencontrer les Camerounais, pour dédicacer notre programme politique, pour nous adresser aux Camerounais, pour pouvoir échanger même avec les médias, ce n'est pas évident. Et l'ECAM aujourd'hui est, à mon avis, incompétent juridiquement, est incompétent dans tous les domaines pour pouvoir conduire à bout cette élection présidentielle.
Oui, et Vincent Soussène Fouda, l'organe chargé d'organiser les élections au Cameroun et l'ECAM affirme avoir reçu 51 dossiers de candidature pour le Cameroun seul. C'est quand même un peu trop. Comment expliquez-vous cela, Vincent Soussène Fouda ?
D'abord, c'est une expression d'un ras-le-bol. Un ras-le-bol des Camerounais où, finalement, on découvre que la fonction présidentielle peut être exercée par n'importe qui. Et la deuxième raison, j'en donnerai trois. La deuxième est que le pouvoir en place a encouragé justement cette pléthore de candidatures, notamment en n'encadrant pas l'entrée du Cameroun dans le multipartisme. Vous savez que le Cameroun compte 256 ethnies et que nous avons aujourd'hui plus de 300 partis politiques. Si vous faites le calcul, vous découvrirez que chaque ethnie au Cameroun a au moins un parti politique. Ce qui n'est pas acceptable quand on veut véritablement construire le nous commun, et le nous commun, c'est la nation camerounaise. Troisièmement, il nous revient, et nous avons un certain nombre de preuves, que le régime en place, pour se crédibiliser, a payé lui-même la caution d'un certain nombre de candidatures. Donc tout cela conduit à un véritable flou artistique que j'appelle le ndolé national. Et ce ndolé national-là, c'est justement conduire le Cameroun vers un véritable chaos politique.
Oui, Vincent Soussène Fouda, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous avez longtemps vécu à l'étranger. Vous avez certainement beaucoup de programmes pour vos électeurs et pour ces élections présidentielles. Alors, pourquoi les Camerounais devraient-ils vous faire confiance, Vincent Soussène Fouda ?
Tout simplement parce que je viens au Cameroun avec un programme en 9 points. 9 points qui parlent de l'économie, de faire une économie à visage humain, de mettre au cœur de la vie politique camerounaise ce que j'appelle le patriotisme économique à la camerounaise. Il faut une véritable réforme du système à la fois de santé, mais aussi de l'éducation. Dans le secteur de l'éducation, nous proposons quelque chose qui est assez simple, c'est que les Camerounais doivent aller à l'école pour résoudre les problèmes du Cameroun. Et pour cela, nous devons arrimer école, formation et emploi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une véritable adéquation entre le monde de l'enseignement, le monde de la formation et le monde du travail, de manière à ce qu'il n'y ait plus de Camerounais qui sortent du système éducatif sans pouvoir véritablement s'insérer dans la vie active. Maintenant, le Cameroun connaît de graves problèmes de santé, en matière de santé. Donc, nous préconisons, et nous avons déjà un plan assez détaillé, pour mettre sur pied un système de sécurité sociale. Nous envisageons aussi d'instaurer ce que j'appelle des hôpitaux ambulants, de manière à ce que chaque Camerounais puisse avoir la possibilité de rencontrer un médecin quand il en a besoin, de rencontrer un infirmier quand il en a besoin, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les routes camerounaises sont une véritable catastrophe. Donc, nous allons nous attarder sur les infrastructures routières dans notre pays qui sont véritablement un des enjeux de cette campagne, parce que la route tue plus de 25 000 Camerounais par an et laisse autant d'handicapés lourds.
Uh-huh.
Ceci est dû à trois fléaux. Le premier fléau, c'est que le parc automobile camerounais augmente chaque année sans qu'il y ait une augmentation de l'état de route et l'amélioration de l'état de route dans notre pays. L'autre fait, et qui est le troisième, est que nous n'avons pas une instance de contrôle et de régulation de la délinquance routière dans notre pays. Donc, par conséquent, on assiste à une véritable anarchie. Il faut harmoniser tout cela. C'est pour cela, par exemple, que nous avons proposé déjà au gouvernement en place, qui ne l'a pas accepté, mais nous allons le faire, c'est-à-dire la mise sur pied d'un véritable observatoire de lutte contre la délinquance routière. Et pour tout à fait terminer, le monde de la culture camerounaise est malade. Par conséquent, il faudrait que nos artistes vivent de leur art, qu'ils cessent de chanter les louanges des hommes et des femmes qui dirigent ce pays pour avoir un peu de quoi manger.
Donc vous voulez combattre la piraterie?
Nous allons combattre la piraterie, mais nous allons aussi responsabiliser, par exemple, nos artistes musiciens afin qu'ils cessent de chanter les louanges des uns et des autres. Nous avons, par exemple, proposé une loi à l'Assemblée nationale et qui passera avec nous quand nous serons au pouvoir, c'est-à-dire que nous allons interdire à nos artistes de chanter les louanges des uns et des autres. S'ils veulent le changer et ils veulent le chanter, alors en ce moment-là, il faudra que ce soit considéré comme de la publicité et que l'on paye une redevance dessus. Que chaque fois que l'on prononce votre nom à la radio, parce que vous êtes une célébrité, que vous payez une redevance dessus. Vous savez que ça se passe dans des pays comme la Zambie,
uh-huh.
et du coup, les Camerounais vont véritablement se mettre au travail.
Uh-huh.
Pour ce qui est de l'école, je vais revenir dessus. Nous souhaitons véritablement aujourd'hui que, par exemple, l'école camerounaise réponde aux besoins qui sont les nôtres, que les enfants n'étudient plus avec pour ambition simplement d'aller travailler à l'étranger un peu plus tard. Vous savez que beaucoup de pays africains, et le Cameroun en particulier, fonctionne comme une pépinière où qui élève ses enfants de 0 à 15 voire 18 ans. Une fois que ses enfants ont le baccalauréat, ils repartent et ils ne reviennent plus jamais ici. Pourquoi? Parce que le salaire que l'on propose aux Camerounais est le plus pauvre de l'Afrique centrale. C'est-à-dire que le SMIC au Cameroun est de 28 000 francs, alors qu'il est de 180 000 francs en Guinée équatoriale et de 120 000 francs au Gabon. Donc le Cameroun peut améliorer cela justement en puisant dans son assiette fiscale dans un véritable système de péréquation qui voudra que l'on prenne l'argent et qu'on le mette à la disposition des Camerounais en fonction des besoins qui sont les leurs. Nous allons véritablement engager une politique agricole qui va faire du Cameroun le véritable grenier de l'Afrique centrale, qui va nourrir tous les pays de l'Afrique centrale. Vous savez qu'on a toujours considéré le Cameroun comme étant une Afrique en miniature. Mais cette Afrique en miniature ne devrait pas simplement être un slogan, ça devrait être dans les faits, dans le vécu quotidien. Donc, par conséquent, nous avons pour ambition de subventionner nos agriculteurs. Nous n'avons pas l'intention de laisser à l'OMC nous imposer tout ce que nous devons faire dans notre pays. Et l'autre chose, c'est de se refaire venir dans le giron, dans le giron des sociétés d'État du Cameroun, notamment la SINEC, qui est la Société Nationale des Eaux du Cameroun, mais aussi la SONEL, qui est la Société Nationale d'Électricité du Cameroun. C'est très important parce que ce sont des sociétés de souveraineté qui doivent aider l'État dans l'exercice de ses fonctions régaliennes.
Vincent Fouda et Soustain, décidément, vous avez un programme très chargé. Merci d'avoir été en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes candidat à l'élection présidentielle et prochaine du 9 octobre au Cameroun.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtre sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
À moins de 3 mois des élections présidentielles en République démocratique du Congo, le climat politique est devenu très délétère. En début de cette semaine, des affrontements entre policiers et manifestants de l'opposition ont fait un mort à Kinshasa, la capitale. La candidature du candidat historique Étienne Tshisekedi, ainsi que la contestation par l'opposition de la liste électorale en sont les causes. Invité jeudi et 8 septembre dernier par la commission électorale à signer un code de bonne conduite, les partis politiques en RDC participant à la présidentielle comme le MLC, Mouvement de la Libération du Congo, ou encore l'UN, l'Union nationale, l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, ont accepté de signer ce code de bonne conduite, sauf l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti d'Étienne Tshisekedi, qui pose des conditions dont le plus important est la vérification de la liste des électeurs que réclame l'opposition. Le peuple congolais, quant à lui, est inquiet du fait que l'opposition va encore en rang dispersé à ces élections présidentielles, ce qui donnera probablement une force au parti au pouvoir, le PPRD, Parti du Peuple pour la Reconstruction de la Démocratie et la Démocratie. Pour l'heure, le camp Joseph Kabila se prépare donc tout doucement pour la pré-campagne électorale en République démocratique du Congo. Et nous allons recevoir tout de suite en ligne, en direct depuis Belgique, M. Kalabela Misombo. J'espère qu'il est déjà en ligne. Bonsoir, M. Kalabela.
Bonsoir, M. Amos.
Merci d'être en direct avec nous depuis, disons, c'est Liège plutôt, hein, c'est la France, la Liège.
Oui, nous sommes à Liège, oui, effectivement.
Merci, M. Kalabela Misombo Ambroise. Vous êtes patriote congolais, représentant du FLNC, Front de Libération Nationale Congolais aux USA et en Europe. Alors, M. Kalabela, la problématique de la non-transparence des élections en Afrique est un véritable dilemme, surtout pour les populations qui subissent les répressions massives juste après les élections. Alors, les élections donc présidentielles en RDC sont prévues pour le 28 novembre prochain. Et déjà, l'opposition conteste le fichier électoral. Monsieur Kalabela Misombo, pensez-vous que Joseph Kabila, et Kabila fils, hein, a l'intention d'organiser des élections transparentes en RDC?
Oui, comme en Afrique, c'est très difficile de pouvoir avoir des élections réellement transparentes, que ce soit au Congo ou dans d'autres pays, tels que le Cameroun ou bien la Guinée, n'importe où. Mais c'est très difficile. On est déçu par les élections telles qu'elles se sont déroulées dans ces différents pays, et surtout qui sont des pays d'Afrique noire. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'interférences des puissances extra-africaines dans l'organisation des élections en Afrique. Et surtout, leur participation financière fait que, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment une autonomie organisationnelle des élections. Ce qui fait que, même au Congo, si Kabila organise les élections, même s'il avait l'intention de les organiser d'une façon transparente, mais il faut tenir compte aussi de son entourage. Son entourage est assez délicat parce que, on se rend compte que son entourage est composé surtout de beaucoup d'anciens mobutistes qui ont gardé certaines habitudes qui sont assez fâcheuses. Ce qui fait que ceux-ci, voulant garder coûte que coûte le pouvoir, sont capables de tout. Donc ce qui veut dire qu'ils risquent aussi de recourir à des tricheries, même indépendamment de la personne de Kabila elle-même.
Oui, Monsieur Kalabela Misombo, restez toujours en ligne en direct depuis la France, Liège. Et nous avons également en ligne depuis Beaune notre collaborateur Romain Koudodi. Romain?
Oui, bonsoir, Monsieur Kalabela Misombo.
Bonsoir, Monsieur Romain.
Et la population congolaise est inquiète du fait que l'opposition participe encore en rang dispersé à la présidentielle. Ne pensez-vous pas que cela aura une porte de victoire à Joseph Kabila?
Oh, ça, c'est un fait, parce que s'ils partent en ordre dispersé, je crois que Kabila risque de réussir de passer. Bon, ça, c'est l'opposition qui devrait évidemment assumer ses responsabilités par rapport à son comportement.
Monsieur Kalabella, alors pour vous, quelle est selon vous la cause de cette désunion de l'opposition congolaise?
Ben, vous connaissez nos compatriotes, beaucoup de Congolais sont très ambitieux, mais une ambition tout à fait personnelle qui fait que derrière toutes ces candidatures, ce n'est pas l'amour de la patrie qui émerge, mais c'est surtout des intérêts à caractère particulier, c'est-à-dire des intérêts personnels, au lieu de voir l'intérêt général qui est le pays et le peuple. Chacun se présente parce qu'il veut devenir soit premier ministre ou bien ministre ou bien président afin de pouvoir profiter de cette situation pour pouvoir bénéficier évidemment des avantages que la situation lui procure. Par exemple, c'est une course vers l'argent, purement et simplement. Regardez par exemple ce que touchent les députés congolais qui avaient été élus en 2006. Et ce que touche, par exemple, les simples fonctionnaires de l'État, mais l'écart est énorme. Alors, on constate que ces députés, ils touchent régulièrement leur argent, mais par contre, les simples fonctionnaires, ils restent un mois, deux mois sans toucher leurs sous, leurs émoluments.
Romain, vous avez une dernière question, Romain?
Évidemment. Sur un autre registre, la candidature de M. Étienne Tshisekedi, l'opposant historique au pouvoir de Kabila, suscite des vives réactions. Pensez-vous que l'âge joue contre Tshisekedi et que son temps est révolu et qu'il ne devrait pas être candidat à l'élection?
Bon, vous savez, Tshisekedi, il faut bien le connaître. Historiquement, il ne faisait partie du camp de nationalistes congolais. Il faisait partie du camp de ceux qui ont combattu les Lumumba, nous-mêmes, parce que moi je faisais partie du camp Lumumbis, et ils nous ont combattus fortement, alors que nous étions des véritables patriotes et nationalistes, et nous défendions l'intérêt et l'unité du Congo, et eux, ils nous combattaient. Donc vous voyez que dès le départ, il était dans le camp des anti-nationalistes, c'est-à-dire anti-congolais en tant que tel. Bon, mais quand on regarde maintenant l'âge de la personne, je ne crois pas que ça ne doit pas être un critère de référence majeur, parce que on peut prendre par exemple le roi de Belgique ici, quel âge a-t-il? Et pourtant il continue à régner. Vous avez le roi d'Espagne, il est assez âgé. Vous avez notre camarade Mugabe au Zimbabwe, il a un certain âge, il a presque 80 et 82 ans. Bon, quand vous prenez, par exemple, Nelson Mandela, quand il est arrivé au pouvoir, il avait 80 ans passés. Donc, ça, ce n'est pas le seul critère de référence pour dire qu'il ne doit pas se présenter. Mais, pour la présentation, moi, j'estime que le critère de l'argent, ce n'est pas un critère valable, il est antidémocratique. Quand on demande à un candidat de présenter une caution de 50 000 dollars pour être candidat président, je trouve que c'est exagéré. On écarte des gens qui pouvaient éventuellement faire une compétition valable, avec des idées valables, avoir une caution du peuple. Mais comme ils n'ont pas participé aux différents systèmes politiques et comme ils n'ont pas pillé les richesses du pays pour se constituer un magot, dont il se servirait aujourd'hui pour pouvoir se présenter aux élections, mais ces gens-là sont purement et simplement écartés, évidemment, de la course aux élections présidentielles, parce qu'ils n'ont pas cet argent-là. Donc c'est antidémocratique.
Monsieur Kalabella Missombo Ambroise, merci d'avoir été en direct avec nous dans Fenêtre sur l'Afrique depuis la France à Liège. Je rappelle que vous êtes patriote congolais, représentant du FLNC, Front de Libération Nationale Congolais aux USA et en Europe. Encore une fois, merci et excellente soirée à vous.
Merci beaucoup à vous aussi et merci de nous avoir donné la parole.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtres sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Au Togo, le procès de Kwacha Nyasimbe a repris le 6 septembre avec ses révélations troublantes autour des accusés de la tentative du coup d'État contre le président Faure Nyasimbe en avril 2009 dernier. La ANC, Alliance nationale pour le changement, vient de demander cette semaine à travers un communiqué la démission du juge Abalo Pitilebia, coupable d'abus de pouvoir et de forfaiture, selon la ANC, qui demande carrément sa démission car poursuit, et le même communiqué, l'attitude du juge Abalo Pitilebia bafoue l'intelligence et le sens de la justice des Togolais. Et nous allons recevoir tout de suite Fabi Kwasi qui a suivi pour nous ce procès. Elle est déjà en ligne en direct depuis Lomé. Fabi Kwasi, bonsoir.
Sylvain Amos, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique.
Merci d'être en direct avec nous depuis Lomé. Fabi, des révélations troublantes ont été faites au cours de ce procès Kwacha Nyasimbe, un procès qu'on peut qualifier du jamais vu au Togo, Fabi Kwasi.
Oui, exactement. Et puis on n'a pas fini avec les révélations. Je reviens d'un enfer terrestre. J'ai vu le démon. J'ai refusé de lui serrer la main. Il a un visage. Son nom, Massinayo Trophée. Voilà l'une des révélations de ce procès qui fait froid dans le dos à plusieurs Togolais. Révélation signée du capitaine Dontema, l'un des compagnons d'infortune de Kwacha Nyasimbe dans cette ténébreuse affaire de tentative d'atteinte contre la sûreté de l'État. Et revoilà l'État du Togo qui s'illustre dans des pratiques peu orthodoxe, notamment la torture, qui reste un crime imprescriptible, mais qui est régi en mode de gestion à l'Agence nationale de renseignement. Presque tous les présumés se disent marqués par ce Guantanamo national, avec à sa tête celui que Faure Nyasimbe a décoré le 27 avril dernier pour service rendu à la nation. Le colonel Massinayo Trophée, qu'un autre prévenu qualifie de diable et de psychopathe, le Togo des diables et des démons. Même si le procès Kwacha se passe en foulant au pied le respect élémentaire du droit, il a le mérite de mettre à nu le régime de Nyasimbe père et fils, même si la sentence est connue du peuple, c'est-à-dire la plus lourde peine pour le député de la COSA et ses comparses. Disons que le clan et ses fils sont victimes de leur propre turpitude. Le procès est déjà fait dans d'autres palais. Des consignes sont données sur son déroulement, son organisation, sa couverture sur l'organisation. Selon des sources proches du dossier, déjà à 3h du matin, on fait remplir la salle du palais de justice des Proforts. Les familles des détenus, elles, sont obligées d'y être à 4 heures pour faire du forcing. Les images du procès, selon les informations, seraient traitées à la présidence avant leur diffusion sur la télévision nationale. L'autre dira, ce sont les habitudes de la maison. Au niveau des débats sur les chaînes privées, beaucoup d'espèces sonnantes et trébuchantes seraient en circulation pour soutenir que le coup d'État est avéré et que le demi-frère du chef de l'État doit être condamné. Ce procès aura le mérite ensuite de révéler le rôle calamiteux qu'a joué l'ambassade des États-Unis au Togo, l'ex-ambassadeur Patricia Hawkins et Zach Bawa, employé de cette ambassade, ont joué un rôle de premier plan dans cette orchestration fictive au nom de ce coup d'État. Les câbles Wikileaks sortis courant cette semaine démontrent tout et bien éclairer la lanterne des Togolais. Pourquoi avoir attendu le départ de Madame l'ambassadeur des États-Unis du Togo, qui a pourtant promis un procès équitable à Kwacha avant d'ouvrir la comédie judiciaire? Pourquoi l'employé de l'ambassade, Zach Bawa, comme par enchantement, est porté disparu juste après que le député de la COSA ait demandé qu'il vienne à la barre témoigner? Autant de zones d'ombre que seul le régime togolais peut éclaircir. Est-ce un procès de coup d'État ou de coup de drogue? S'interroge le confrère Liberté. Dans l'un comme dans l'autre cas, tout le clan est concerné alors. Si Kwacha doit être jugé pour tentative de coup d'État, son frère de président doit l'être également pour le coup d'État du 5 février 2005 qui lui a permis de capter le fauteuil présidentiel de papa, soutiennent d'autres Togolais. Ainsi va le Togo des montages, des fantaisies, des tragicomédies, des parodies de procès, comme seul sait en fabriquer le clan Nyasimbe avec sa branche d'officiers supérieurs dont une brochette est citée à comparaître comme témoin sur des dossiers tout aussi pourris que la République.
Oui, Fabi Kwasi, le FRAC, Front Républicain pour la Tenance et le Changement, est toujours dans les rues pour son habituelle marche de protestation de tous les samedis. Peut-on encore parler de la détermination des Togolais pour un changement démocratique au Togo, Fabi Kwasi?
En en tout cas de façon mitigée, hein, un public plutôt clairsemé pour la marche, le meeting traditionnel du FRAC ce samedi. Quoi qu'il en soit, le Front est toujours dans les rues et conteste la réélection de Florian Singel et des rives du pouvoir. Au menu des interventions, celle d'Isabelle Amegambi sur le procès Katia Simbé et la parodie judiciaire qui se passe en ce moment sur le sol togolais. Elle promet y revenir à la fin de cette mascarade, étant donné qu'elle est avocate de la défense, au même titre que Maître Abitiessa du PSR et membre du FRAC, qu'ils ont donc une obligation de réserve. Alphonse Kogo de la DIE, toujours dans la même veine, interpelle les corps habillés qui s'illustrent dans les répressions et le massacre des populations togolaises à prendre exemple sur ce qui arrive à Katia Simbé pour se convertir, allusion faite au capitaine à Capo et compagnie. Il n'a pas manqué de fustiger l'attitude de l'Église catholique qui est corrompue par le pouvoir togolais, l'Église qui a refusé de publier le rapport de l'élection présidentielle du 4 mars 2010. Fort heureusement, le quotidien Liberté vient de le rendre public, un sérieux camouflé pour la famille du Vatican au Togo. Pour le président de l'ANC, Jean-Pierre Favre, ce procès, Patia dénonce que Fort Niasimbe est pire que son père. Il s'étonne du fait qu'on puisse juger un député sans lever son immunité, ce qui est un scandale qui doit appeler les Togolais à l'indignation et à la mobilisation pour l'avènement d'un état de droit. Sur la commission Vérité, Justice et Réconciliation de Mgr Nicodème Barriga, qui vient de débuter ses audiences, le président du FRAC, Martel, le FRAC n'accompagnera pas cette commission qui pose problème de par sa composition. Il dénonce l'attitude de l'Église à cautionner la dictature. Enfin, sur le dialogue, le leader du FRAC convie les partis de l'opposition qui y croient à prendre le pouls des populations, à répertorier leurs besoins et attentes avant de courir pour dialoguer avec le régime de Fort Niasimbé.
Fabi Kwasi, merci.
Légende FM, partenaire officiel de Fenêtres sur l'Afrique, un programme de Radio Canal K en Suisse. Une émission réalisée et présentée par Sylvain Amos.
Oui, eh bien, la page musicale et culturelle de Fenêtre sur l'Afrique est consacrée ce soir à l'artiste togolais Brice Capel, qui est un artiste compositeur togolais, je viens de le dire. Brice a quitté son pays, le Togo, dès l'âge de 8 ans pour la France. À travers ses chansons, Brice essaie de créer un monde nouveau pour les enfants. C'est ainsi que depuis août 1992, Brice Capel a commencé ses œuvres par l'histoire de Chali, un jeune garçon qui adore le train. À travers ses spectacles, Brice Capel fait danser et chanter les enfants. Colori Kokura est sa toute récente production. Dans quelques instants, nous allons avoir tout de suite Brice Capel au téléphone depuis la France. Oui, allô, bonsoir Brice.
Bonsoir.
Comment allez-vous Brice?
Ça va.
Au Fonyuelea.
Fonyuele.
Nisobedo. Alors, nous sommes dans cette émission préférée Fenêtre sur l'Afrique. Bienvenue et merci d'être en direct avec nous depuis la France dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et je l'avais tantôt annoncé et que c'est une page culturelle et musicale qui vient d'être ouverte ce soir encore. Alors, Brice, parlez-nous un petit peu de vous et comment êtes-vous arrivé à la musique?
Ah bah, je suis arrivé à la musique grâce d'abord à Lomé, à Nikonakwe, parce que j'allais à l'église avec maman et papa, et je me retrouvais dans les ferveurs des chants en Mina, et c'est ça qui m'a donné envie plus tard de faire de la musique. Alors j'ai eu un parcours un peu atypique, parce que j'ai fait du football, après j'ai fait de l'athlétisme, et entre temps je suis parti faire des études de l'autre côté de l'Atlantique, et parce que j'avais envie de faire de la musique. Et c'est comme ça que ma passion de la musique est née, quoi. Je crois que c'est vraiment dû au fait que j'étais enfant de chœur dans les églises, et c'est tout ce qui se passait dans les églises par rapport à la ferveur des gens, par rapport promesses qui étaient endiablées. C'est ça qui m'a donné envie de faire de la musique.
Alors, Brice Carpel, pourquoi avez-vous choisi de donner la priorité aux enfants dans vos chansons? Je fais allusion à l'une de vos morceaux, hein, Djedje Vigne. Djedje Vigne, c'est Amina, hein, Djedje Vigne, Toboro. Hein, Djedje Vigne, est-ce que cela vous rappelle encore votre enfance au Togo, et puisque vous avez quitté votre pays très jeune, à l'âge de 8 ans, Brice Carpel?
Djedje Vigne, ce sont les berceuses que nous chantaient les mamans et la grand-mère, puisque ma grand-mère venait du Ghana, Nagan, et j'ai bercé complètement dans ces berceuses là. Donc le jour où Charlie est né, Charlie c'est mon petit garçon, quand il est né en 92, c'était normal pour moi de me replonger, de lui rechanter les chansons du pays. Et ce qui m'a donné envie de travailler avec les enfants, c'est que quand je sortais, quand Charlie a eu, il était un peu plus âgé, il avait 4 ans, je l'emmenais voir des spectacles pour enfants, je me retrouvais avec des parents, j'avais l'impression que c'était une corvée pour eux d'emmener leurs enfants voir un spectacle. C'est-à-dire qu'ils posaient les enfants, et puis bon, comme ça les intéressait pas, ils discutaient entre eux. Donc là, je me suis dit, mais c'est complètement dommage. On vit dans un monde aujourd'hui où nos enfants sont vraiment nos espoirs. C'est la force de demain. Donc le temps qu'on doit passer avec eux, ça doit être un temps de privilège, ça doit être un temps précieux. Donc j'ai une idée d'écrire un spectacle avec une musique d'adulte, mais des textes qui touchent à la fois les enfants et les parents. Parce que quand on prend un texte comme Avion de papier, ça parle de divorce, ça parle du fait que parfois les adultes se séparent et les enfants souffrent. Mais il faut qu'on trouve une solution, parce que avant tout, on aime nos enfants. Et l'amour qu'on a pour eux est le plus fort qui soit. Donc, pour moi, c'est important. C'est-à-dire que, à travers le fait de parler des enfants, je touche également les adultes, parce que pour moi, ça ne fait qu'un, quoi. C'est le même chemin, c'est la même voie, et ça ne fait qu'un. Pour moi, les trois générations ne font qu'un, parce que c'est important que les trois générations partagent ensemble, les enfants, les parents et les grands-parents.
Exactement.
Chez nous, à Lomé, en Afrique, on a toujours une pensée pour nos grands-parents.
Alors, Brice, restez toujours en ligne, en direct avec nous dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous allons écouter Djedje Vigne de Brice Carpel.
Djedje Vigne lo, Djedje Vigne lo, Mbafon vit les hommes en amour. Mbafon vit les hommes en amour. De la robe nationale, Djedje Vigne lo, Togolo, Togolo. En tobe Djedje Vielo, Togolo. Me te puenamlo, Togolo. En tobe Djedje Vielo, Togolo. Me te puenamlo, Togolo. Ni gagnon ton yeji, Togolo. Ni gagble ton yeji, Togolo. Ni gagnon ton yeji, Togolo. Gagle ton yeji, Mba font vie les hommes en amour, Mba font vie les hommes en amour, de la robe nationale. Djedje Vigne lo,
bien, Djedje Vigne, je pense que ça rappelle beaucoup de choses à nos fidèles auditeurs, auditeurs de Canal K, surtout les Togolais qui sont actuellement câblés sur le www.canalk.ch. Alors, Brice Carpel, dans votre album Colori Cocola, vous racontez à travers vos chansons le voyage en route pour Colori Cocola. Hein. C'est quoi le village de Colori Cocola, Brice Carpel?
Le village de Colori Cocola, c'est le village où se retrouvent tous les hommes, qu'ils soient blancs, rouges, jaunes, noirs, ils se retrouvent à Colori Cocola. Et aussi, ils se retrouvent ensemble, c'est-à-dire des trois générations. On compte bien nos anciens, les parents et puis les enfants. Et en fait, sur scène, je propose des jeux interactifs au public. Et à chaque fois que le public réussit un jeu, je lui attribue un certain nombre de kilomètres. Et le but du jeu, c'est d'arriver au pays de Colori Cocola, qui est situé à 200 000 km dans le ciel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous avons 6 enfants qui voyagent à travers leurs rêves, et leur but, c'est d'aller sur Colorecocola, mais parfois, quand on prend des chemins, il y a des embûches sur le chemin. Donc, nous avons une grand-mère qui s'appelle Mamie Nagan, qui vient à chaque fois en aide aux enfants, et parce que le but du jeu, le but du concert, ben, c'est d'arriver tous ensemble au Colorecocola pour faire la fête. Voilà, donc Colorecocola, c'est un village qui est perdu à 200 000 km dans le ciel.
À nos auditeurs de Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K, je vous laisse découvrir le village de Colorecocola à travers ce morceau de Brice Capel que nous recevons en direct depuis la France.
Vois-tu dans la vie, c'est la couleur du cœur. Avec nous, tous et toutes, venez chanter vos couleurs. Rythme doux, rythme fou, couleur, ah quel bonheur. De fête brille dans ma tête, mes rêves sont en couleur. Au son des tam-tams sur le macadam, s'éveille de corps et de cœur.
Oui, et bien, vous écoutez la Colorecocola de Brice Capel, l'artiste compositeur togolais que nous recevons en direct depuis la France. Alors, Brice Capel, vous êtes toujours avec nous en direct?
Oui, je suis là.
Alors, Brice Capel, n'ayant pas vécu vous-même au Togo pendant longtemps votre enfance au Togo, hein, pensez-vous organiser un spectacle à des milliers d'enfants en Afrique et particulièrement au Togo, votre pays est d'origine, hein. Ces enfants, dont la plupart des parents sont très pauvres et n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Notons que vous avez déjà donné ou bien fait beaucoup de spectacles en France, et je ne sais pas si vous l'avez déjà fait dans d'autres pays européens, Brice Capel.
Oui, mais j'ai fait un super spectacle à Lomé en 2007. J'étais parti sur une tournée qui avait été montée par l'Alliance française, et la tournée s'est finie à Lomé. Le problème, c'est qu'avant de jouer à Lomé, j'étais passé par le Cotonou et j'avais mangé quelque chose qui ne m'a pas réussi. Donc j'ai eu la diarrhée, et quand je suis arrivé à Lomé, j'étais très 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 malade. Mais ma maman était à Lomé. Et en fait, on a fait un spectacle formidable parce que il y a plus d'une centaine d'enfants qui sont montés sur scène danser avec moi. Et si ces enfants n'avaient pas été là, j'aurais pas pu faire le spectacle.
Exactement, oui.
Et ça a été un moment formidable que je n'oublierai pas, et ça m'a beaucoup touché. Là, vous parlez des enfants, vous parlez de tout ce qui se passe à Lomé. En fait, j'ai été touché par la problématique du pays. Et je fais pas mal de choses, moi, de mon côté ici, et mon envie, c'est de pouvoir retourner là-bas et donner un peu de mon temps, donner aussi un peu de mon énergie pour essayer de changer les choses.
À ces enfants déshérités de l'Afrique et du Togo, hein.
Complètement.
Alors, Brice Capel, pour terminer cet entretien avec vous, hein, dites-nous où on peut trouver vos albums. Est-ce qu'on peut aussi les trouver ici en Suisse, au Togo, par exemple? Car, écoutez, Brice, cette émission sera rediffusée demain, dimanche à 18h, heure de Lomé, hein, sur notre radio partenaire, les gens d'FM, là, Lomé au Togo, Brice.
Bah, pour tout ce qui est album, ils peuvent le commander directement sur le site internet, mais le DVD Colorecocola Live va être distribué par Disc Office, Donc ils peuvent le trouver également en Suisse. Et puis je vais sortir un album pour adultes dans 2 mois. Uh-huh. Beaucoup de chansons en mina dans
les gangbé mais allô.
Ah, les gangbé mais. Blewe mia dapelo, blewe mia dapelo, blewe.
Merci.
C'est important de ne pas se couper de ses racines.
Uh-huh. Merci beaucoup Brice Capel que nous recevons en direct depuis la France. Brice Capel est auteur-compositeur. Il est togolais. Il a quitté son pays très jeune, à 8 ans. Et on a tout de suite remarqué que Brice n'a pas oublié son origine. Au fond, il y a Brice. Merci Brice. Nous allons finir ce petit entretien avec vous en écoutant maintenant Charlie, extrait de l'album de Coloris Cocola de Brice Capel. Encore une fois, Brice, merci et excellente soirée à tout le monde, à tous les enfants de la France. Hein. Bye bye.
Bye.
L'appelle Charlie. Il est drôle le chef quand il fait le clown dans son lit. On dirait Monsieur Chaplin, mais pour moi c'est Charlie. Charlie aime les trains. Il rêve des moulins. C'est un petit gars rigolo, juste métis au bobo, qui aime faire le mariole avec.
Eh bien, c'est sur cette belle chanson de Brice Capel, le Togolais résident actuellement en France, et que nous clôturons cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure, même studio. Romain Koudodi Abone, Prince Freddy, Josué Maoli et Esteban Gagnon, nos deux collaborateurs à Lomé au Togo, Rodri Lawson et Fabi Kwasi. Réalisation, présentation, Sylvain Amos, je vous remercie pour votre fidélité à cette émission. Vous pouvez réécouter cette émission dès déjà demain sur nos sites d'information panafricain togolais, www.togocity.com, www.mo5togo-togo.com ou encore www.cvu-togo-diaspora.org. Cette émission sera également rediffusée demain à Lomé au Togo à 18h de Lomé au Togo et sur notre radio partenaire Légende FM. Excellente soirée à toutes et à tous.